L'atelier avec l'artiste Elissa Marshall. Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins, la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
Alors l'atelier pour moi, c'est avant tout en fait un lieu de travail et je dirais même un lieu de production, parce que c'est pas un lieu dans lequel je vais faire ma comptabilité ou des choses administratives ou des lectures. C'est vraiment un lieu dans lequel je viens travailler. Et en fait, je me suis aperçue récemment que c'est vrai que j'avais jamais vraiment pris le temps de l'aménager, de le rendre cosy, mais c'est plutôt un lieu assez brut, avec un sol gris, des murs très blancs. Voilà, donc c'est surtout avant tout un lieu que j'associe au travail.
À l'occasion de la foire Modern Art Fair, qui se tient du 20 au 24 octobre, la peintre Elissa Marshall expose ses œuvres sur le stand de la galerie Baudouin Lebon. Une actualité qui nous invite à diffuser l'interview de l'artiste réalisée dans son atelier au printemps dernier. À Montreuil, dans les anciens locaux de l'usine Chapal, loge une quantité d'ateliers d'artistes. C'est ici qu'Elissa Marshall a son atelier, lumineux comme ses peintures, de cette lumière blanche, évanescente et douce, qui se nimbe délicatement des couleurs primaires de ses toiles. Comme si le nuancier prenait vie dans l'espace, comme si les peintures d'Elissa avaient le pouvoir de teinter l'air ambiant. Bref, j'entre et je me sens déjà enveloppée dans l'irisation de la couleur. D'autant que l'atelier est impeccablement rangé, sans une trace de peinture, excepté sur les œuvres bien sûr. Chez Elissa, on baigne dans une abstraction lumineuse et la conversation s'engage sur sa technique picturale. Méticuleuse, justement, par série, son amour de la couleur et de la lumière, sa quête inconsciente du monochrome, qui n'a rien pour elle d'un postulat formel à réaliser, car Elissa recherche surtout les pouvoirs secrets de la couleur, ce qu'ils induisent dans notre perception de l'espace, du plein et du vide. Avec la couleur et la lumière, Elissa Marshall peint d'ailleurs le vide et sculpte l'espace. C'est beau, mathématique, spirituel et minimal, une certaine forme de pureté picturale.
Alors, c'est vrai que c'est un atelier qui est quand même très propre, parce que j'ai visité déjà beaucoup d'ateliers d'artistes. Et alors, il y a un peu tout type d'ateliers. Il y en a qui sont maculés de peinture. Il y en a où il y a des étagères dans tous les sens, avec des tableaux un peu dans tous les sens, qui sont pas forcément très bien rangés. Alors, chez toi, c'est le contraire. C'est très propre. Il n'y a pas une trace de peinture au mur. Les tableaux sont très bien rangé, donc c'est quand même un aspect très minimaliste et très épuré, finalement, comme ta peinture.
Exactement, c'est vrai que l'atelier est un peu à l'image de mon travail. Il est assez organisé et j'ai besoin de cette organisation, en fait, pour m'y retrouver. Et j'ai besoin aussi d'un atelier assez propre parce que les poussières ne vont pas tellement avec mon travail.
Alors justement, on arrive dans le vif du sujet. En fait, tu es une peintre abstraite, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que ce terme te convient?
Ben, il me convient tout à fait, d'autant plus que je pense que je suis vraiment dans une abstraction assez pure. C'est vraiment la matérialité de la peinture et les couleurs qui vont guider mon travail. En fait, je n'ai pas du tout d'idée préconçue. En fait, je n'ai pas de référent par rapport à ma peinture, si ce n'est la peinture elle-même. Et bon, alors c'est vrai que paradoxalement, après, j'ai appelé cette série sur laquelle je travaille actuellement Les Horizons, donc qui font référence au paysage et qui font donc référence aussi à quelque chose de très concret qu'on peut trouver dans la nature. Mais pour autant, pour moi, en fait, c'est un terme que je verrais plus dans un sens métaphorique, c'est-à-dire l'horizon, une perspective. Donc, pour faire encore référence à des termes de la peinture, donc plus à une perspective, voilà, à quelque chose qui ouvre. Donc, c'est plus à entendre dans un sens métaphorique que dans celui de paysage.
Alors, tu parles des horizons. Alors justement, ce sont des peintures. Je vais essayer de les décrire très rapidement. Par exemple, il y a une série qui est juste devant nos yeux. Ce sont des formats portraits qui sont en fait bleus. Alors, inondés de bleu, mais il y a deux plans en fait, hein, le plan supérieur et le plan inférieur qui sont séparés au niveau exact du milieu de la toile avec une ligne d'horizon bleue. Donc c'est le même pigment bleu mais que tu travailles différemment, c'est-à-dire que la partie inférieure est plus sombre, en tout cas dans ce cas-là, que la partie supérieure, et la ligne d'horizon apparaît comme une sorte de lumière bleue. Donc il y a tout un travail à la fois sur la couleur et sur la luminosité de la couleur, et en fait tu vas faire des variations infinies, j'allais dire, sur ce bleu, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, donc dans ces deux parties d'exacte dimension de la toile.
Exactement, en fait, donc la ligne médiane divise la toile en deux parties, et je fais couler la peinture, je ne peins pas avec des pinceaux. Et donc, finalement, je peins avec la gravité.
Oui, d'accord. Donc ça, c'est une technique particulière.
Oui, très particulière. Et donc, la peinture s'écoule du centre de la toile vers les extrémités. Et c'est pour ça qu'elle va être moins pigmentée au centre que vers les bords. Et c'est ce qui va donner, en fait, cette clarté au centre de la toile. Donc, c'est vraiment mettre en exergue, en fait, les composantes de la peinture elle-même. C'est-à-dire, en fait, donc la couleur, la lumière... sa matérialité dont j'avais déjà parlé, et effectivement jouer sur les variations, un petit peu comme en musique. C'est-à-dire que ce qui est important, en fait, ça va être de voir ce qui va bouger avec une technique très proche, et ça va amorcer finalement des déplacements de toile en toile qui vont être plus ou moins importants, mais qui après, si on passe de la première à la dernière toile, le déplacement sera plus visible, en fait.
Alors, il n'y a pas que du bleu, hein, tu as essayé d'autres couleurs également. Là, le bleu, ce sont un peu les dernières créations. Et si on veut essayer de faire un référent un peu pour que les auditeurs en fait se rendent compte, s'ils connaissent Rothko, c'est un peintre qui abstrait, un grand peintre abstrait américain qui a aussi donc travaillé l'abstraction, qui a certaines de ses toiles qui sont comme ça divisées en deux parties en fait. Alors la peinture est un peu différente, peut-être plus vaporeuse. Un petit peu, c'est pas tout à fait la même texture, mais voilà, il y a quand même des points d'accroche peut-être qu'on peut faire entre ce peintre-là et ta peinture. Est-ce que c'est un peintre qui t'inspire justement?
Oui, bien sûr, c'est un peintre que j'aime beaucoup, effectivement, qui a beaucoup travaillé en fait la couleur et sa luminosité. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'exposer cet hiver au Mark Rothko Art Center en Lettonie, dans la ville natale de Rothko, qui s'appelle maintenant Daugavpils.
Ah oui, alors j'imagine que c'était une grande émotion pour toi.
Ah oui, j'étais vraiment très émue d'exposer sur sa terre natale. Mmh.
Tu m'as dit tout à l'heure que juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer du micro, que tu tournais finalement un peu en rond autour du monochrome. C'est quoi le monochrome en fait pour toi? Quelle est ta quête?
Alors, si je reprends une phrase de Soulages qui disait « c'est en faisant que je sais ce que je cherche », quelque chose comme ça, j'ai plus les mots exacts, mais c'est un peu, je pourrais la reprendre à mon compte, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis pas « tiens, je vais travailler autour du monochrome », mais en fait, en voyant mes différents travaux ces dernières années, je me rends compte qu'en fait, il réapparaît toujours plus ou moins. Il est là, je ne peux pas affirmer que mes toiles, même si elles sont bleues, pour autant, en fait, il y a une ligne, il y a quelque chose, il y a une espèce de composition, même si elle est assez simple, donc je ne pourrais pas les qualifier de totalement de monochrome. C'est vrai que je tourne autour, et d'ailleurs, au début, quand je travaillais la série des horizons, les couleurs étaient plus contrastées. Un contraste sur des couleurs complémentaires, par exemple... du rouge et du bleu, ou du vert et du jaune, ou de l'orange et du vert. Et petit à petit, en fait, j'ai été amenée avec le bleu à faire beaucoup de séries bleues. Et puis maintenant, le dernier développement de ma série Horizon est du blanc. Donc en fait, ce sont des monochromes de couleurs que je recouvre de blanc. Donc c'est vrai que je tourne autour. Je l'avais également beaucoup approché avec ma série des cadres. Donc les cadres, en fait, sont quatre tasseaux de bois qui sont assemblés et peints sur les tranches. Et la couleur qui est peinte à l'intérieur du cadre va se refléter sur le mur. Donc, et va se refléter sur la totalité de la surface. Donc, ce qui veut dire que le cadre va retrouver sa fonction de cadre en encadrant une image qu'il a lui-même créée. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un jeu, on ne sait plus trop ce qu'on doit regarder. Est-ce qu'on doit regarder l'image qui a été ainsi créée, donc qui est de la lumière immatérielle, ou alors est-ce qu'on doit regarder le cadre? En fait, il y a un jeu d'aller-retour comme ça entre l'objet peint et la couleur reflétée.
Oui, c'est-à-dire que tu peins le vide presque, hein.
Ah bah ça, je te remercie parce que pour moi c'est un très très beau compliment. C'est exactement ce que j'essaie de faire.
Alors moi j'ai été fascinée par ton cadre justement. Enfin le premier que j'ai vu, il y en a d'autres, mais parce qu'effectivement, alors il faut peut-être préciser qu'il vaut mieux un mur blanc pour que ça fonctionne.
Oui, tout à fait. Non mais c'est une condition voilà. Nécessaire.
C'est une condition nécessaire. Mais alors si vous avez un mur blanc immaculé et que vous posez le cadre d'Elissa dessus, ce cadre donc qui est subtilement peint, vous verrez que votre mur blanc crée lui-même une couleur et devient peinture. Enfin voilà, donc c'est une peinture immatérielle qui est complètement fascinante.
Et ce qui me fascine aussi toujours avec ce cadre, c'est que si je le pose, eh ben, je vais pouvoir affirmer, par exemple, si la couleur peinte à l'intérieur est verte, je vais pouvoir affirmer que le mur est vert. Et en revanche, dès que je l'enlève, le mur est blanc. Donc ce que j'aime bien, c'est que ces deux assertions qui sont vraies, qui sont exactes, eh ben, en fait, et qui sont antinomiques, eh ben, pour autant peuvent être vraies simultanément, enfin, avec un léger décalage dans le temps.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette quête du moins, en fait, pour révéler une chose invisible, en fait. C'est-à-dire que c'est une économie de moyens, en fait, aussi dans ta pratique.
Ben, avec les cadres, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé cette série très puissante, parce qu'en fait, pour moi, j'étais arrivée avec une économie de moyens, c'est-à-dire seulement 4 tasseaux de bois peints et assemblés, à une efficacité maximale, c'est-à-dire à parler du monochrome, de la lumière, de qu'est-ce que la peinture. Donc ça posait beaucoup de questions et donc j'ai trouvé cette série très puissante. Et avec les séries des horizons, c'est ce que je recherche également, c'est-à-dire que avec le moins d'éléments possibles, avoir un résultat qui soit très fort, inversement proportionnel en fait aux moyens engagés. Si, voilà.
Oui, oui. Oui, alors on retrouve aussi, je parlais de peindre dans le vide tout à l'heure, on retrouve un peu ce même processus, je pense, dans tes... Alors là, c'est plutôt des sculptures, on va dire, des petites, puisque c'est des petites constructions où tu assembles les tasseaux de bois de manière géométrique, enfin orthogonale en fait, hein, tu crées des petites architectures. Et alors là, c'est pareil, le jeu de la couleur, c'est-à-dire que le jeu du fait que les tranches sont peintes de différentes couleurs, la lumière joue là-dessus et ça crée un halo de lumière autour. Enfin, c'est voilà. Donc là aussi, là, finalement, l'environnement de l'objet se peint en fait.
Oui, tout à fait. Et en fait, là aussi, on retrouve déjà les faces en fait de les plans de monochrome en fait qui étaient déjà apparents. Parce qu'en fait, quand on est face à ces assemblages, on est devant un plan blanc. Si je puis dire, quand on, par exemple, je parle de celle qu'on a sous les yeux, quand on se déplace à droite, on va avoir un plan vert, et quand on se déplace à gauche, on va avoir un plan bleu. Donc déjà, il y avait cette idée en fait de plans colorés en fait avec lesquels je fonctionne beaucoup. Tout se met en place progressivement et tout s'affirme en fait de série en série. Donc là, il y avait le reflet de la couleur qui apparaissait principalement sur la pièce elle-même en fait, sur l'assemblage lui-même. Sur les tasseaux. Et c'est après, dans les séries suivantes, où je me suis rapprochée du mur, en fait. J'ai simplifié, en fait, les propositions. Mais déjà, là, effectivement, ici, ce qu'on retrouve toujours dans mes travaux, il y avait déjà l'horizontale et la verticale, en fait, qu'on retrouvait, en fait, et qu'on retrouve toujours dans la série des horizons, puisque, comme tu l'as spécifié tout à l'heure, le format est vertical. et la ligne est horizontale.
Alors, est-ce qu'on peut aussi parler un peu d'art cinétique ou d'art optique ou pas, puisqu'en fait, il y a un peu ce jeu de couleurs, hein, qui pourrait évoquer un peu ce que faisait Vasarely dans un temps plus ancien.
Oui, effectivement, en fait, c'est une histoire de perception qui est fondamentale en fait dans mon travail, puisque elle va se modifier tout le temps, au gré du déplacement du spectateur, au gré de la lumière environnante. Et d'ailleurs, c'était assez fou parce que l'autre jour, j'ai fait deux toiles qui étaient similaires, qui étaient l'une à côté de l'autre, et en fait, je ne les percevais pas de la même façon. Alors que je sais qu'elles étaient exactement pareilles. Et ensuite, quand je les intervertissais, elles paraissaient toujours pas pareilles, en fait.
Elles étaient similaires, mais une fois côte à côte, elles étaient différentes.
Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est toute l'histoire de la couleur, en fait. C'est toute l'histoire de la perception de la couleur qu'on perçoit, qui n'est pas, en fait, objective, qui est complètement, qui a sa part de subjectivité.
Alors, justement, d'où te vient cette fascination pour la couleur, pour la lumière, pour le spectre des couleurs, en fait. Comment tu en es venu à travailler comme ça sur des couleurs très pures, hein, aussi?
Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais c'est vrai que dès petite, je faisais plutôt des compositions abstraites et que c'est vraiment la couleur qui m'intéressait. D'ailleurs, mon professeur de dessin me disait que j'avais le sens des couleurs. Et finalement, si j'essaie de me souvenir des toiles qui, petites, me marquaient, j'ai en tête des souvenirs de Matisse, de ses dessins découpés, en fait, de ses dessins abstraits, des toiles de Pollock. C'est-à-dire que c'était des choses déjà plus abstraites, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus dans la peinture, c'est vraiment la couleur, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi je suis venue à la peinture.
Oui, alors parce que tu es devenue peintre à quel moment? Quel est ton parcours, finalement? Quand est-ce que tu t'es dit, je deviens artiste, je m'y mets, je plonge dans cette vie d'artiste?
Alors, ce qui est un petit peu... ce qui n'est pas très fréquent, on va dire, c'est que j'ai commencé par des études très classiques, par une prépa HEC, une école de commerce, un premier travail dans le monde de l'entreprise. Et puis, au bout de 5 ans, j'estimais que j'avais fait le tour de mon travail, donc il était question que je trouve autre chose. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, ben, de la peinture. Donc, j'ai pris cette décision un petit peu naïvement, je dois dire, c'est vrai. Mais je pense que si je l'avais prise avec de la raison, je ne l'aurais pas prise. Mais donc maintenant, ça fait une vingtaine d'années que je suis engagée dans la peinture et je ne regrette pas mon choix.
Et alors, toujours de l'abstraction, hein, tu n'as jamais fait de figuration, même au début?
J'ai jamais fait de figuration, en fait. C'est vraiment l'abstraction qui est mon langage.
C'est le nom de Sol Lewitt, quand même, qui m'est venu, justement, assez rapidement, quand j'ai vu, on n'en a pas parlé, mais une de tes premières œuvres qui t'a mené à tout ce travail, ce sont des bâtons. Donc qui sont complètement colorés par strates de couleurs multicolores, en fait.
Oui, Sol Lewitt, évidemment, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et effectivement, parfois, quand j'étais plus novice dans la peinture, je me suis retrouvée à faire des compositions et j'ai réalisé après que Sol Lewitt avait déjà fait ce travail. D'une manière générale, les grands peintres américains des années 60-70, des peintres abstraits, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Joan Mitchell aussi. Donc, pas que des abstraits qui seraient un peu dans la géométrie. Hein. J'aime beaucoup... Barnett Newman, André Nart, Clifford Steele, Maurice Louis. La liste est longue, effectivement.
Parce qu'il y a un côté finalement assez méthodique chez toi. Et en plus, tu travailles par série. Donc la série aussi, c'est peut-être pour épuiser un peu une formule ou un système.
Alors effectivement, la série sert à épuiser, en fait, peut-être, en fait, une erreur va faire d'ailleurs, la série blanche, en fait, c'est comme ça qu'elle est apparue. C'est-à-dire que, au début, j'avais conçu des toiles avec du blanc, mais avec une couleur et du blanc. Et puis finalement, il y avait, je pense, des imperfections sur la couleur. Donc, je me suis dit, tiens, je vais recouvrir en blanc. Et c'est comme ça que sont apparues les monochromes, enfin, les toiles, les horizons plutôt, presque blancs. Le lapsus avec le monochrome, mais donc en fait effectivement c'est cette idée d'épuisement et en fait d'être surpris à chaque fois par ce qui advient.
Et est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a particulièrement, disons, fascinée, que tu as vue, voilà, soit dans une expo, soit dans un musée, et qui continue de peut-être d'être une inspiration, un accompagnement? Est-ce qu'il y a une œuvre d'un artiste ou d'une artiste qui a été un peu un déclencheur pour toi dans ton parcours?
Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je pense que j'ai été influencée par Matisse, en fait, énormément, parce que c'est quand même la référence en matière de couleurs. Non pas que pour moi c'était une référence théorique, mais c'est que j'ai bien vu que la couleur était très présente et très belle dans son travail. Donc je pense que il a été assez important pour moi. Ensuite, je sais que j'ai été très frappée par les œuvres d'Opalka, en fait, cette assiduité, cette constance il y a eu une période pendant laquelle j'ai beaucoup aimé en fait ce travail répétitif, voilà. Et ce que je trouve remarquable chez Opalka, c'est qu'en fait il arrive à sculpter le temps. Voilà, moi j'aime bien peindre le vide comme tu disais, mais lui il arrive à sculpter le temps, et pareil avec des moyens, avec une économie de moyens assez importante, puisqu'il utilise que du noir et du blanc. Mais j'aime beaucoup ce travail.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu évoques justement la sculpture pour un autre artiste, mais finalement, tu fais aussi bien la peinture, mais aussi des petites sculptures. Est-ce que il y a une différence ? Enfin, est-ce que pour toi, c'est un peu la même chose, ou le travail finalement de construction un peu sculpturale est différent ? Est-ce que c'est des projets qui sont un peu différents, ou il y a des correspondances avec aussi ta peinture ?
Bah, il y a totalement des correspondances avec ma peinture, en fait, parce que quand je faisais les assemblages qui peuvent être assimilés à des sculptures, mais que je considère comme des peintures murales, si on peut dire, ou des peintures en relief. Donc il y avait un lien très fort entre peinture et sculpture. Et dans les horizons, je trouve que je développe cette série en fait comme un sculpteur. C'est-à-dire que vu que je fais couler la peinture, après je la ponce, je recommence, je reponce. Donc j'ai vraiment l'impression de travailler la couleur comme un sculpteur travaillerait son matériau brut, en fait. Voilà. Donc sculpter la couleur. Et donc tout à l'heure je parlais de Opalka par rapport au temps, et c'est vrai que le temps est une composante assez importante pour moi. D'ailleurs, une amie me faisait remarquer qu'en fait dans la série des horizons, la peinture s'écoule du centre vers l'extrémité, comme je le disais tout à l'heure, et après je tourne la toile à 180 degrés et je recommence. Et elle me faisait remarquer la similitude avec l'analogie en fait avec le sablier.
Oui, c'est très beau. Et lorsqu'il me vient à conclure cette petite interview en parlant quand même de méditation aussi devant ces horizons.
Ah ben ça, c'est aussi un autre compliment qu'on puisse me faire, parce que effectivement on peut regarder les horizons, on peut s'asseoir devant et les contempler pendant des heures. Et pour moi, c'est un peu comme le ciel. C'est-à-dire que quand on regarde un grand ciel bleu avec ses dégradés, enfin, on n'arrive pas vraiment à saisir quelle est la texture du ciel, en fait. On voit qu'il est en dégradé, hein. Et j'aimerais, en fait, qu'on ait un petit peu la même sensation en regardant les horizons. Qu'on se demande ce qu'il y a derrière.
Merci beaucoup, Elissa.
Merci, Julie.
On va terminer avec ce secret, voilà, de tes peintures. Merci beaucoup.
C'était À l'atelier avec Julie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre podcast, une émission que vous pouvez découvrir sur le site d'Art District Radio, en diffusion et en podcast.